Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, bien, chers amis, nous avançons dans ce traité sur le mariage. Je vous rappelle que pour tous ceux qui veulent un traité plus complet, un cours, vraiment un cours sur le mariage, de voir la partie du catéchisme sur le site Dame Marie qui correspond au sacrement de mariage. Vous avez beaucoup de choses. Là, je me contente de suivre le texte de saint Thomas d'Aquin et je vais passer très vite sur la partie canonique, d'autant plus que d'abord parce que c'est pas le but du cours et ensuite parce que le droit canon du temps de saint Thomas d'Aquin a changé, n'est plus le même puisqu'il a été modifié plusieurs fois et maintenant nous suivons le code de droit canonique qui a été préparé par le pape Saint Pie X. Donc le code de 1917 préparé par Saint Pie X est publié par le successeur de Saint Pie X. Je crois que c'était Benoît XV. Alors, nous en sommes à la question 45, donc nous avons juste commencé la question. Le consentement est-il cause efficiente du mariage? Il est évident que s'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de mariage. Le consentement est la cause du mariage. C'est pour ça qu'on appelle le mariage, strictement parlant, l'échange de consentement devant le témoin officiel de l'Église. N'oublions pas aussi que depuis le nouveau code de droit canonique, le code de droit canonique de Saint Pie X, celui que nous suivons dans l'Église catholique, c'est évident que nous n'acceptons pas le code de droit canonique de 1983, publié par Wojtyla, Jean-Paul II. Ce code de droit canonique n'étant rien d'autre que l'acceptation dans les lois d'Église de l'esprit de Vatican II. Donc c'est inadmissible pour un catholique de suivre ce code-là. Nous suivons le code traditionnel de l'Église catholique. Alors, est-il nécessaire d'exprimer le consentement de vive voix, se pose la question de saint Thomas. Donc, tout sacrement, dit-il, exige la présence d'un signe sensible. Rappelez-vous la définition du sacrement, signe visible d'une grâce invisible instituée par Dieu pour notre sanctification. Donc, tout sacrement exigeant la présence d'un signe sensible, le mariage requiert donc des paroles exprimant le consentement. Les paroles ou l'équivalent. C'est évident que si deux personnes muettes, par exemple, se mariaient, eh bien, il faudrait un signe de tête qui, devant témoin, remplacerait la parole extérieure. Le consentement exprimé sous forme de promesse pour l'avenir est-il cause du mariage? Donc, attention, le consentement exprimé par un engagement pour l'avenir ne peut avoir le mariage pour effet. Pourquoi? Parce que ces causes que sont les sacrements sont des signes efficaces, ils produisent ce qu'ils signifient. Donc, ce n'est pas un engagement pour l'avenir, c'est un engagement pour le jour du mariage. Donc un engagement matrimonial avec une promesse qui correspond conditionnelle sur l'avenir serait sacrement absolument invalide. Par exemple, imaginez quelqu'un qui dit, voilà, je me marie avec telle personne, mais à condition que j'ai tel travail qui m'arrive dans l'avenir. Bon, il est évident que des conditions de ce genre sont absolument immorales. Alors,
un simple signe d'assentiment, même verbal, c'est-à-dire des paroles extérieures, ne suffisent pas à constituer le mariage si le consentement intérieur fait défaut. Hein. Celui qui ne consent pas intérieurement au mariage n'a pas l'intention de le contracter. Il n'y a donc pas mariage. Il faut que le signe extérieur corresponde à un consentement intérieur. Hein. Alors, la cause efficiente du mariage est le consentement donc donné au mariage immédiat. Que ce consentement soit secret ou public, le mariage s'en suivra donc toujours. Du moment qu'il y a véritable consentement, il faut que ce consentement soit manifesté devant un témoin. Vous savez que depuis le code de droit canonique de Saint-Pédis, donc pour lutter contre les mariages clandestins, en principe, le sacrement de mariage est donné par les deux époux. Ce sont les époux eux-mêmes qui se donnent le sacrement de mariage, mais doit être fait devant le témoin officiel qui est le prêtre. Le prêtre est témoin. Pas le ministre du sacrement, ce sont les époux eux-mêmes qui sont ministres, mais le prêtre est le témoin officiel. En principe, c'est le curé de l'épouse. Bon, actuellement, les choses, à cause des situations dans lesquelles nous sommes, est évident que, dans toute la mesure du possible, vous essayez quand même d'avoir un prêtre présent à votre mariage, mais n'oubliez pas que le prêtre n'est pas la personne, si vous voulez, il est la personne habilitée, mais ce n'est pas lui qui est ministre, ce sont les époux eux-mêmes qui sont ministres. Donc saint Thomas précise, le consentement donné à l'union présente entre personnes capables de se marier réalise le mariage. Si les deux personnes présentes ne sont pas capables de se marier, il n'y a pas de mariage, c'est évident. Hein? Alors, saint Thomas ensuite va rentrer dans toute une série de détails. Je vais aller assez vite sur toute cette deuxième partie du traité sur le mariage de saint Thomas d'Aquin. On sent très bien que donc ce traité a été écrit avec des textes primitifs de saint Thomas, des textes de sa jeunesse. Mais on voit très bien que saint Thomas était mort au moment où ces textes ont été mis ensemble par le secrétaire de saint Thomas d'Aquin, et donc il manque des choses. C'est pour ça que je vous demande d'aller voir, pour si c'est nécessaire pour vous, d'aller voir tout le traité sur le mariage qui est, je pense, expliqué de façon complète sur le site dont je m'occupe, Dame Marie, à la partie sur, dans l'onglet sur les sacrements, partie sur le mariage, et en plus les cours que j'ai donnés, que je donne toujours, quand je prépare des gens en mariage. Donc, s'il y a un serment pour l'avenir, les promesses signifient que le consentement est promis pour l'avenir. Tant que ce consentement est promis pour l'avenir, le mariage n'existe donc pas encore. De même, c'est absolument évident, que les relations charnelles qui suivent une promesse de mariage ne font pas le mariage. Hein. Donc, si les personnes sont fiancées, par exemple, ou se sont promis le mariage pour un temps futur, tant que les personnes ne sont pas mariées devant Dieu, toute relation charnelle est interdite entre les deux fiancés. C'est absolument évident. Hein. Si le consentement du mariage fait défaut, toutes les autres démarches, même les relations charnelles qui s'y joindront, seront sans valeur. Donc l'union charnelle ne peut vraiment pas nouer le mariage entre les fiancés si le consentement intérieur fait défaut. Il faut qu'il y ait un échange de consentement devant un témoin pour qu'il y ait vraiment mariage. Alors, il faut que le consentement soit véritable, un consentement conditionnel ou un consentement dans laquelle quitter un consentement purement extérieur mais avec un manque de consentement intérieur rend le mariage absolument invalide. Alors, il faut bien distinguer les choses. On est dans la question 47. Est-ce que on peut, ça certainement se pose la question, donc il faut, pour comprendre bien cet article-là, on a la question 47, l'article 1, saint Thomas se pose la question, consentement forcé est-il possible? Donc il faut mettre ça en parallèle avec d'autres articles qui vont arriver juste après pour comprendre cet article-là. Il répond, le consentement de mariage peut être un consentement forcé. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bon, est évident qu'un consentement forcé doit être un consentement intérieur. Un consentement forcé qui ne correspond pas à un consentement intérieur n'est pas un véritable consentement. Bon, je donne un exemple. Vous allez comprendre avec un exemple. Imaginez votre fille revient à la maison après avoir fait des bêtises malheureusement et est enceinte. Bon, est-ce que en soi vous auriez le droit en tant que père d'obliger le père de l'enfant que porte maintenant votre fille à se marier avec votre fils, avec votre fille, pardon? Alors il faut répondre une double façon de répondre. En soi, oui. C'est-à-dire qu'un père pourrait littéralement obliger, un père de famille pourrait obliger l'amant de sa fille, sa personne qui a rendu sa fille enceinte, l'obliger à épouser sa fille. Mais tant que ce jeune homme ne donne pas un consentement véritable, le mariage est impossible. Bon, parce qu'il y aurait une pure violence. Dans ce cas-là, c'est impossible. Lorsque, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, hélas, de plus en plus fréquemment, hélas aussi. Imaginez une jeune fille qui vient de me voir, ce sont des cas malheureusement très fréquents, enfin très fréquents, trop fréquents, je dirais. J'ai une fille qui vient de voir le prêtre en disant « Voilà mon père, je malheureusement fais des bêtises avec un jeune homme, je suis enceinte. » Bon, il n'est pas question que je tue l'enfant par avortement, donc je garde l'enfant. Est-ce que je suis obligé d'épouser ce jeune homme qui prétend m'aimer, qui veut m'épouser? Je vais lui poser tout de suite la question, est-ce que vous aimez ce jeune homme? Est-ce qu'il est vraiment un homme fait pour vous? Non, monsieur l'abbé, j'ai pas vraiment d'amour pour lui, il n'est pas fait pour moi, et bon, j'ai fait une énorme bêtise, je paye maintenant durement les conséquences de ma bêtise, mais ce n'est pas un homme pour moi. Je lui répondrai tout de suite, ne vous mariez pas avec lui. Ne vous mariez pas avec lui. C'est pareil pour l'homme. Imaginez un jeune homme qui vient me voir en disant, monsieur l'abbé, j'ai fait une grosse bêtise, je suis allé à un endroit dangereux, en boîte de nuit avec des copains, j'ai trop bu, et puis quand j'étais plus ou moins ivre, bon, ben, j'ai fait des bêtises avec une jeune fille, elle se retrouve enceinte. Maintenant, cette jeune fille, le père de la jeune fille exige que je me marie avec elle. Est-ce que je suis tenu moralement d'épouser cette jeune fille? La réponse que je donnerai dans ce cas-là est la suivante. Je poserai la question à ce jeune homme. Aimez-vous vraiment cette jeune fille? Mais non, monsieur l'abbé, c'est pas une mauvaise fille, mais c'est pas du tout une fille pour moi. Elle a même pas la foi. Elle est baptisée, mais elle croit en rien du tout. C'est une fille légère. Bon, ça n'excuse pas ma faute. J'ai fait quelque chose d'abominable. J'en suis parfaitement conscient. J'ai bien demandé pardon, bon Dieu, par la confession. Mais non, c'est pas du tout une fille pour moi. Je dirais, vous n'êtes pas tenu de la marier. Par contre, vous êtes tenu, en tant que, à cause de la vertu de justice, vous êtes tenu d'aider sérieusement à l'arrivée de l'enfant. C'est-à-dire, vous n'êtes pas tenu d'épouser cette jeune fille si elle n'est pas faite pour vous, mais par contre, elle se retrouve enceinte à cause de vous, ben, vous êtes tenu financièrement de participer aux frais qui vont subvenir à cette jeune fille à cause de l'arrivée de l'enfant. Mais je n'accepterai jamais en tant que prêtre de marier quelqu'un alors que je sais très bien que ces deux personnes ne se marient que par force, par obligation. Monsieur l'abbé, ça arrivait souvent au Mexique. Quand j'étais au Mexique, malheureusement c'était souvent comme ça, surtout dans les parties sud du Mexique, frontière avec le Guatemala. Il n'y a pas beaucoup de culture et ça arrivait malheureusement très souvent qu'une jeune fille se retrouve enceinte et quand elle finissait par l'avouer à son père, c'était vite réglé. Le père prenait le fusil, allait voir le papa de l'enfant qui allait arriver et lui disait « Voilà, ou tu épouses ma fille ou je te descends. » Bon, alors c'était vite réglé. Il est évident que dans un cas comme ça, s'il n'y a pas de consentement intérieur, le mariage, il ne peut pas y avoir de mariage. Le mariage est invalide. Bon. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait une enquête matrimoniale, surtout dans les cas comme ça, nous devons voir le prêtre qui prépare le mariage, surtout dans un cas où la jeune fille est enceinte avant le mariage, ils ont fêté les rameaux, Pâques avant les rameaux, comme on dit, eh bien, nous devons, le prêtre est obligé de voir chaque personne de façon absolument privée. Je dois voir seule la jeune fille, puis seul le jeune homme, sans témoin, et pour bien vérifier qu'il y a consentement intérieur. Si le jeune homme me dit, écoutez, monsieur l'abbé, j'ai fait une grosse bêtise, bon, papa me menace de mort, bon, je vais me marier, je donne mon consentement intérieur, même si je sais que j'ai fait une grosse bêtise, c'est pas le genre de jeune fille que j'aurais épousé, mais bon, maintenant que je suis papa, je me sens obligé de l'épouser, je donne mon consentement intérieur, le mariage est valide. Cependant, j'aimerais pas du tout faire un mariage comme ça. Moi, j'ai connu un cas, mais je ne donne pas de nom bien entendu, j'ai connu un cas d'une jeune fille de grande valeur qui avait fait une grosse bêtise, hein, qui s'est retrouvée enceinte. Et le papa de l'enfant souhaitait épouser cette jeune fille, qui savait très bien au fond d'elle-même que cet homme était un homme qui la rendrait malheureuse toute sa vie, et qui s'est mariée avec lui, qui a donc donné son consentement au mariage, qui s'est mariée avec lui en sachant très bien qu'elle aurait une vie d'enfer avec ce gars-là, mais qu'elle se mariait quand même avec lui, qu'elle donnait son consentement intérieur au mariage en réparation de ce qu'elle avait fait. Elle s'est mariée religieusement, elle a eu un enfer avec cet homme pendant toute sa vie, et elle m'avait dit, monsieur l'abbé, je quitterai cet homme qui me bat, qui d'une violence épouvantable avec moi et avec les enfants, le jour où mon dernier enfant se mariera. Et c'est ce qu'elle a fait. Le jour du mariage de son dernier enfant avec lui, elle l'a quitté. Le mariage était valide dans un cas comme ça. Voyez. Bon, est-ce qu'elle a bien fait de s'offrir en sacrifice, en quelque sorte, pour réparer son péché? Ça, c'est discutable, c'est autre chose, c'est un autre problème. Donc, s'il n'y a pas de consentement intérieur, le mariage est impossible. Alors nous avançons, encore une fois je vais assez vite dans toutes ces questions canoniques. La crainte peut-elle forcer la volonté d'un homme résolu? Et saint Thomas répond positivement que la crainte peut forcer la volonté d'un homme ferme et résolu. Donc l'homme résolu tient à tenir le juste milieu entre l'inconstant et l'opiniâtre. Il faut, encore une fois, beaucoup de sagesse dans ces cas-là. Moi, je conseille en tout cas, en tant que prêtre, imaginez que votre fille revienne à la maison, malheureusement, votre jeune fille non mariée revienne à la maison enceinte, vous l'avoue, est-ce qu'il faut l'agonir d'injures? Certainement pas. Elle a besoin de se confesser, elle a besoin de changer de vie, elle a besoin de changer de façon de vivre. Mais je conseillerais aux parents de ne jamais obliger leur jeune fille qui est enceinte à se marier avec le papa, même si le papa de l'enfant qu'elle a en son sein souhaite le mariage, si votre jeune fille n'aime pas réellement cet homme. Il faut lui en parler avec elle, mais est-ce que tu l'aimes? Ben non, je fais une grosse bêtise, mais il n'est pas fait pour moi, ne te marie pas avec lui. Bon, c'est évident, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, que le jeune homme dans ce cas-là est tenu en conscience, en justice, devant Dieu et devant les hommes, bon, à financer, au moins aider financièrement parlant, la jeune fille qui se retrouve mère. Saint Thomas a une belle phrase, hein, il dit que le plus grand de tous les maux, c'est le péché. Mais rien ne peut contraindre à le commettre l'homme résolu. Il doit plutôt mourir que se résigner à une mauvaise action. Hein. La mort, mais pas le péché. Alors ensuite, voilà l'article complémentaire dont je vous parlais auparavant, c'est la question 47, article 3, le consentement forcé rend-il le mariage nul? Et saint Thomas explique bien que tout ce qui empêche le lien d'être perpétuel annule le mariage. Donc, le mariage, dit-il, signifie l'union que le Christ a contractée avec son Église dans la liberté de l'amour. Il ne peut donc être l'effet d'un consentement forcé. Donc, consentement forcé avec consentement intérieur, mariage valide. Consentement forcé sans consentement intérieur, mariage invalide. Hein, c'est la règle. Donc, si c'est par exemple, saint Thomas dit la phrase suivante, un consentement extorqué n'est pas suffisant pour donner lieu à un vrai mariage. Donc, la violence est un empêchement au mariage. Alors, certainement, ensuite, rentre dans les détails en se posant la question de savoir si le mariage est valide pour le conjoint qui a obtenu de force le consentement de l'autre. Et il répond négativement si pour, voilà ce qu'il dit, le mariage est une relation qui établit l'égalité entre deux personnes. Or, pareille relation affecte également l'une et l'autre personne. Si pour l'une il y a empêchement, le mariage ne pourra donc pas exister du côté de l'autre. Il ne peut pas y avoir, on dit en droit canonique, de mariage boiteux, de mariage qui claudique. Donc s'il n'y a pas un consentement véritable, personnel, intérieur, il ne peut pas y avoir de mariage valide. Donc un mariage dans lequel un conjoint a obtenu par force le consentement de l'autre, un tel mariage est absolument invalide. Donc pourquoi ? C'est tellement une belle phrase, il dit « L'union entre deux personnes ne peut exister sans amour réciproque. » Donc pas de mariage véritable sans amour réciproque. Au moins on peut dire plus exactement pas de mariage véritable sans consentement intérieur. Alors, si le mariage, le consentement a été donné sous condition, le mariage est également, n'est pas un contrat. Le mariage est un contrat, il ne peut donc être conclu par un consentement donné sous condition. Donc, une condition contraire au bien du mariage le rend nul. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué auparavant, la fin du mariage, ce sont les enfants, l'acceptation des enfants. Donc, il y a trois conditions pour qu'un mariage soit valide. L'indissolubilité, l'unité et l'acceptation des enfants. C'est la loi naturelle. Donc, l'indissolubilité, on est marié jusqu'à la mort. L'unité, pas de tierce personne, c'est-à-dire que je me marie avec telle personne, il n'est pas question que je garde une amante ou un amant. L'unité est nécessaire à la validité du mariage. Et en fait, il faut accepter les enfants. Donc, si la condition même intérieur va contre une de ces fins du mariage, le mariage est absolument invalide. Donc si quelqu'un se marie en se disant je n'aurai pas d'enfant ou je limite le nombre des enfants que je veux avoir sans suivre la volonté du bon Dieu, le mariage est invalide. Si une personne se marie en se disant je me marie mais devant Dieu, mais si ça ne marche pas en divorce et on peut se remarier, le mariage est invalide. Mais si un époux se dit je me marie avec telle personne, je me marie, ou une personne se dit je me marie avec telle personne, mais je garde une ancienne petite copine que j'avais, un ancien petit copain que j'avais avant, j'irai me consoler avec cette personne, ça ne va pas avec mon ménage. Eh bien, dans tel cas, le mariage est absolument invalide. Hein? Donc, le mariage avec une condition qui va contre l'essence même du mariage est absolument invalide. Saint Thomas le dit bien, une condition contraire au bien du mariage le rend nul. Alors, il va aborder la question 47, article 6. Un père pose la question à Saint Thomas. Un père peut-il imposer le mariage à son enfant ? Donc, l'objection, évidemment, ce qu'on dit à Saint Paul aux Colossiens, enfants, obéissez en tout à vos parents. Donc, est-ce que les enfants doivent obéir aussi en cette circonstance ? C'est-à-dire les parents, un enfant est-il obligé d'épouser quelqu'un contre sa volonté ? Bien, Saint Thomas, évidemment, va répondre négativement. Un fils peut entrer en religion sans commettre de péché quand son père lui impose de se marier. Il n'est donc pas obligé d'obéir à son père sur ce point. Donc, dans les deux cas, un père qui veut obliger son fils à se marier ou un père qui veut obliger son fils à rentrer en religion, l'enfant n'est pas obligé d'obéir à son père parce que son père donne un ordre illégitime qu'il n'a pas le droit de donner. Saint Thomas explique, le mariage ressemble à une sorte de servitude perpétuelle. Un père ne peut donc forcer son fils à lui obéir et à contracter mariage car le fils est une personne libre par sa condition. Ce que peut faire par contre le père, c'est de persuader son enfant par juste motif d'agir de la sorte. La valeur que prendront ses raisons pour le fils montrera la valeur des avis de son père. Si les motifs imposent le mariage et remontent à la nécessité ou le bien fondé, le précepte du père aura la même force, sinon ne vaudra pas. Donc un père de famille n'a pas le droit d'obliger, en quelque sorte, c'est son enfant à se marier contre sa volonté. C'est pour cela que, je vous l'ai déjà dit, lors des préparations au mariage, au début des fiançailles, parce qu'on fait ce qu'on appelle l'investigation canonique, l'enquête canonique matrimoniale, le prêtre doit être seul avec les personnes pour être sûr qu'il y a liberté, justement. Et non seulement il doit faire cette enquête et poser la question, mais en plus de ça, le prêtre doit faire signer aux fiancés, chacun de façon individuelle et en privé, un papier, d'enquête, dans lequel il signe en disant « Je suis libre de me marier avec telle personne. » Pour vous aider à comprendre, je vous lis les questions que le prêtre pose dans l'interrogatoire au futur. Donc, le prêtre individuellement va parler d'abord avec monsieur en général, puis avec mademoiselle, mais monsieur sans présence de témoin, mademoiselle sans présence de témoin. Et voilà les questions que va poser le prêtre. Et la personne en face, donc le fiancé ou la fiancée, sont obligés de signer. Et s'ils ne veulent pas signer, il n'y a pas de mariage. Savez-vous, demande le prêtre, que pour un catholique, il n'y a de vrai mariage que le mariage religieux, celui qui se fait en présence du prêtre et de deux témoins. La personne va répondre oui, et on marque, et la personne va signer. Savez-vous que le sacrement de mariage doit être reçu en état de grâce, qu'avant de le recevoir, vous devez vous présenter au confessionnal, et que l'Église vous engage vivement à communier à l'occasion de votre mariage. Savez-vous que l'on se marie d'abord pour fonder un foyer, avoir des enfants, les élever chrétiennement, ensuite pour céder mutuellement entre époux. Savez-vous que le mariage, c'est un seul homme avec une seule femme et pour la vie, sans aucun droit d'être infidèle à son conjoint, ni de divorcer, ni de se remarier après un divorce, même involontaire. C'est bien ce mariage que vous voulez contracter, n'est-ce pas? Vous prenez l'engagement d'être fidèle à votre époux jusqu'à la mort. Vous prenez l'engagement de ne pas demander le divorce, sous-entendu, pour se remarier après. Vous acceptez d'avoir des enfants. La personne doit répondre oui, et à la fin, le fiancé, puis la fiancée, signe le papier et le prêtre co-signe aussi. Et pour que les choses soient parfaitement claires. Le mariage, c'est quelque chose de très important. Alors, nous avançons. Voyons un petit peu avec saint Thomas l'objet du consentement. Donc, pour un petit détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que un des empêchements au mariage, c'est justement ce manque de liberté. Hein. Donc, il est évident que quelqu'un qui n'aurait pas la liberté de se marier, qui n'aurait pas la liberté de refuser un mariage, qui serait obligé de se marier, et bien une telle personne, le mariage serait absolument invalide. Il faut qu'il y ait un consentement intérieur. J'ai déjà expliqué tout ça. Alors, nous en sommes maintenant à l'objet du consentement. Donc, je vais assez vite parce que c'est des questions assez canoniques. Donc, le but du cours n'est pas de vous donner un cours de droit canonique, mais d'expliquer la somme de saint Thomas d'Aquin. Alors, consentir au mariage, c'est consentir d'une façon implicite aux relations charnelles, même si ce n'est pas d'une manière expresse. Donc, il est évident que quelqu'un, une jeune fille qui se marierait en disant « je veux bien me marier avec telle personne, mais je refuse de donner à mon mari le droit aux actes physiques nécessaires pour avoir des enfants, le mariage serait invalide. » Alors, saint Thomas se pose la question de savoir s'il y a mariage quand le consentement était motivé par un but déshonnête. Alors, il faut faire attention à la réponse. Voilà ce que dit saint Thomas. Celui qui baptise avec l'intention de réaliser un gain, baptise validement. De même, celui qui contracte le mariage pour gagner de l'argent, contracte validement. Bon, imaginez, dans un exemple. Monsieur va épouser mademoiselle parce qu'elle est fille d'un grand banquier et qui sait qu'il va profiter largement des largesses financières de son beau-père. Voilà. Donc, il épouse cette jeune fille, d'abord pour ça. Mais dans son consentement, il est d'accord pour avoir des enfants, le nombre d'enfants que le bon Dieu veut qu'il ait, il est d'accord pour l'unité et l'indissolubilité. Le mariage est valide. Bon. Maintenant, s'il se mariait seulement à cause de l'argent qu'il espère récupérer par ce mariage, c'était l'unique raison de son mariage, un tel mariage serait invalide. Donc saint Thomas va bien expliquer tout ça, on va voir un peu ça ensemble. Celui qui baptise donc, celui qui contracte le mariage pour gagner de l'argent, contracte validement du moment que les fins du mariage sont respectées. Donc on peut distinguer deux fins dans le mariage, une fin essentielle et une fin accidentelle. La première est le but auquel le mariage est destiné. Cette fin est toujours bonne et consiste à la procréation des enfants et la préservation du péché de fornication. Bon. Alors, la fin accidentelle est celle que se proposent les époux en contractant mariage. Donc, du moment que les fins substantielles du mariage, tant la principale que les deux secondaires, c'est-à-dire l'amour mutuel entre les deux époux et le remède à la concupiscence, tant que ces fins sont voulues et acceptées dans les conditions de mariage, le mariage est valide. Même s'il y a une raison, un but déshonnête à côté de cette fin nécessaire pour le mariage. Bon. Il est évident que quelqu'un qui se marie exclusivement, par exemple, pour reprendre l'exemple que je vous ai donné, parce que mademoiselle va avoir amené une dot très importante sur le plan financier, c'est pas l'idéal pour un mariage. En général, ce genre de mariage ne tient pas. Mais si les fins premières et secondaires du mariage sont respectées, le mariage est quand même valide. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a des problèmes de ce genre, heureusement, ce n'est pas le cas normalement quand les deux personnes qui se marient sont nos fidèles. Il faut qu'on fasse très attention, nos prêtres, quand on a un mariage avec un de nos fidèles qui se marie avec, par exemple, une jeune fille de notre paroisse qui vient régulièrement à la messe chez nous depuis des années et qui veut se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Personne ne le connaît. On a un certificat de baptême, bien sûr, mais c'est tout ce qu'on a, et on ne connaît pas vraiment cette personne, et donc on suspecte que les intentions ne sont peut-être pas très claires. Donc, je ne peux pas être dans l'esprit de cette personne pour vérifier que les intentions soient véritables. La personne ne peut même mentir. Mais j'ai quand même le droit, dans ce cas-là, de dire à la jeune fille en question, écoutez, je pense que vous jouez vraiment avec le feu d'épouser telle personne. Hein? Alors, malheureusement, très souvent, lorsque les gens sont amoureux, ils n'écoutent plus le prêtre, ils n'écoutent plus leurs parents, ils n'écoutent plus personne. Alors, saint Thomas va ensuite parler des biens du mariage. Donc, il y en a trois, c'est ce qu'enseigne le catéchisme catholique, les enfants, la fidélité et le sacrement. Donc, le mariage est justifié, dit saint Thomas, par ces trois biens du mariage. Donc, ces motifs vont justifier le mariage. Union de l'homme et de la femme cause du tort à la raison, car, dit saint Thomas, d'un côté, la délectation sensuelle est si véhémente que la raison absorbée par le plaisir ne peut plus comprendre quoi que ce soit, et d'un autre côté, les tribulations inévitables de la chair accablent les époux de soucis matériels. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, comme vous le savez très bien, ceux qui m'écoutent. Aussi, le choix du mariage ne peut devenir raisonnable que moyennant la compensation de certains avantages qui rendront vertueuse pareille union, et tels sont les biens du mariage qui rendent celui-ci légitime et honnête. Donc, pour contrebalancer en quelque sorte les inconvénients du mariage, bon, le fait, dit saint Thomas, qu'il y a tous les problèmes matériels qui vont se poser, quand on est tout seul, qu'on a un travail pour subvenir à une seule personne, ça peut aller à la rigueur. Quand on a, avec le même travail, il faut le même salaire, il faut subvenir à l'épouse et à tous les enfants qui arrivent, c'est une autre paire de manches. Bon. D'autre part, saint Thomas, là c'est important pour ceux qui m'écoutent, saint Thomas dit bien que la délectation sensuelle peut absorber la raison et qu'il ne peut plus comprendre quoi que ce soit. Donc il y a un certain risque, si vous voulez, qui est inévitable. Et donc il faut une contrepartie. Le contre-contrepartie, ce sont les biens du mariage. Les enfants, la fidélité, le sacrement. Hein? Donc Dieu, dans sa miséricorde, justement, aide les gens qui vont se marier en leur donnant, justement, là, la joie d'avoir des enfants, la joie légitime de l'acte conjugal entre les deux époux, la fidélité conjugale et les sacrements, tout ça sont les biens. Hein? La fidélité, l'enfant, le sacrement, donc, sont ce qu'on appelle les biens du mariage. Hein? Donc, celui qui agit doit avoir l'intention de réaliser la fin voulue. Voilà pourquoi on mentionne l'enfant parmi les biens du mariage. Tel est le rôle de la fidélité, selon laquelle l'homme entretient des relations avec son épouse et non pas avec une autre femme. Étant un sacrement, le mariage est une bonne chose. Donc, il faut utiliser les trois biens du mariage, donc les enfants, la fidélité et le sacrement. Alors, saint Thomas ensuite explique que dans le bien des enfants, la fin principale du mariage, se trouve inclus le bien de la vie commune, ce bien secondaire de l'union matrimoniale. Voilà. Donc, la vie commune est nécessaire justement pour qu'un mariage soit équilibré. Vous ne mariez pas quelqu'un pour que chacun a son appartement à un bout de la ville, à l'autre bout de la ville. Donc la qualité de sacrement est donc une condition qui s'ajoute aux éléments que possédait le mariage et qui le rendait vertueux. Alors, le bien principal entre ces trois biens, les enfants, la fidélité et le sacrement, quel est le bien le plus important? Saint Thomas va répondre que le sacrement est le bien principal du mariage. L'indissolubilité, propriété du sacrement, fait partie de la définition déjà donnée du mariage, mais non l'enfant ni la fidélité. Le sacrement est donc le bien principal du mariage. Le sacrement est plus important que les autres biens, car il est propriété du mariage en tant que celui-ci est signe de la grâce. Et les deux autres biens, à savoir les enfants et la fidélité, appartiennent au mariage parce que celui-ci est une institution naturelle. La perfection de la grâce est plus excellente que la perfection de la nature. Le mariage ne se réalise jamais sans indissolubilité, alors qu'il peut exister sans qu'il y ait enfant et fidélité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si des gens mariés ne peuvent pas avoir d'enfant, le mariage est toujours véritable, il existe toujours. Malheureusement, même si un époux est infidèle à son épouse, le mariage demeure. Si vous êtes infidèle à votre épouse, ça ne veut pas dire pour autant que votre mariage disparaît, vous êtes toujours marié. Donc saint Thomas explique, par enfant on entendra l'intention d'en avoir et par fidélité l'intention de rester fidèle à son époux. Ces deux intentions accompagnent nécessairement le mariage parce qu'elles sont comprises dans le contrat matrimonial des deux époux. À tel point que celui qui formulerait dans ce contrat une intention contraire aux deux précédentes ne ferait pas un vrai mariage. Passe rapidement, j'ai déjà expliqué ça. Donc, le rappel du principe est le suivant. Dans l'ordre de l'intention, la fin vient en premier lieu, mais dans l'ordre d'exécution, elle se réalise au dernier instant. La fin est première dans l'intention, dernière dans l'exécution. Bon, la fin de l'homme, c'est quoi? C'est d'aller au ciel. Dans la pratique, on va au ciel qu'après la vie sur la terre. Mais il faut donc, dans la vie de tous les jours, garder constamment en vue notre intention finale, à savoir le ciel, sauver notre âme, aller au paradis. Alors, saint Thomas d'Aquin se pose la question de savoir si les biens du mariage, donc je répète les trois biens du mariage, le sacrement, la fidélité et les enfants, est-ce que ça justifie l'acte conjugal? Donc, la réponse est positive. Donc, les biens du mariage justifient l'acte conjugal. Il n'est pas possible, d'avoir des enfants sans l'acte conjugal. L'acte conjugal ne diffère du péché de fornication que grâce aux biens du mariage. C'est-à-dire, l'acte conjugal en tant que tel, un acte, l'acte physique entre un homme et une femme, est le même pour des personnes mariées et une personne non mariée, l'acte lui-même. Mais l'acte conjugal entre deux personnes non mariées est un péché gravissime de fornication ou d'adultère, une fornication au moins, alors que l'acte conjugal entre deux personnes mariées, si les fins du mariage sont respectées, est un acte de vertu. Si les biens du mariage ne suffisaient pas à justifier l'acte conjugal, le mariage resterait toujours illicite. Un acte peut être bon en raison d'un sacrement qui le rend non seulement bon mais saint. Donc l'acte conjugal entre les deux époux, dans les conditions que j'ai expliquées, est une chose bonne, une chose saine, une chose vertueuse, contrairement à ce que disent certaines personnes. L'acte conjugal devient ainsi un acte bon à cause du lien indissoluble qui unit les époux et qui fait du mariage le symbole de l'union du Christ et de son Église. Les biens du mariage justifient donc suffisamment l'acte conjugal. Alors, la question 49, article 5, on avance, ça c'est un article important. Sans les biens du mariage, l'acte conjugal, peut-il se justifier? Saint Thomas répond de façon très claire, supprimer la cause, c'est supprimer les faits. Les causes qui justifient l'acte conjugal sont les biens du mariage, les enfants, la fidélité, le sacrement. Si ces biens du mariage font défaut, l'acte conjugal ne peut donc se justifier. Cet acte, ce que je viens de vous dire, ne diffère de la fornication que par les biens du mariage. C'est le sacrement, justement, qui va sanctifier tout ça. Or, l'acte conjugal, l'acte sexuel de la fornication est toujours mauvais. Parce que, justement, là, il n'y a pas le sacrement. Si on ne se propose pas, donc, les biens du mariage, on commettra toujours un péché en accomplissant l'acte conjugal. Et l'acte conjugal entre deux personnes qui ne sont pas unies par le sacrement de mariage est toujours, toujours, toujours une faute grave. Faute de fornication, si l'un des deux époux est marié, faute d'adultère même. Reste donc deux raisons pour lesquelles les époux peuvent accomplir l'œuvre de chair, avoir des enfants ou rendre le devoir conjugal. Les époux qui agiront autrement commettront un péché, au moins un péché véniel. Donc, quoi qu'il en soit, l'acte conjugal entre deux personnes qui ne sont pas mariées devant Dieu, pour des catholiques baptisés, je vous rappelle que seuls les catholiques baptisés sont tenus par les lois canoniques du mariage chrétien. L'acte conjugal entre deux baptisés qui ne sont pas mariés religieusement est toujours une faute gravissime, une faute de fornication, d'adultère. Alors attention, aujourd'hui plus que jamais, il faut faire très attention à ça. Vous savez que dans l'Église moderne, l'Église de Vatican II, le sacrement de mariage a complètement été détruit, qu'ils acceptent maintenant des annulations de mariage. Rappelez-vous la thèse catholique, la foi catholique nous enseigne que un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut être détruit par aucune force, aucune puissance au ciel et sur la terre. Dieu lui-même ne peut pas détruire un mariage ratifié et consommé. Valide. Alors, Saint Thomas ensuite donne certaines précisions. L'inclination naturelle n'est pas mauvaise, mais elle est imparfaite quand elle n'est pas ordonnée ultérieurement à l'un des biens du mariage. Donc l'acte conjugal n'est licite que dans la mesure où sont respectés les biens du mariage. Rendre le devoir conjugal pour préserver le conjoint de la fornication n'est pas un péché, attention, car c'est s'acquitter du devoir conjugal. Mais l'accomplir pour ne pas s'exposer soi-même à la fornication, c'est faire une chose superflue, commettre un péché véniel. Le mariage n'a été institué pour ce but que par indulgence, et l'indulgence suppose l'existence des péchés véniels. Alors attention, il faut bien expliquer une chose, parce que c'est un problème énorme, qui est un peu un sujet tabou. Parce que les femmes qui se confessent, les mamans qui se confessent, n'en parlent jamais au confessionnal. C'est un problème énorme, j'en profite puisque je peux en parler ici plus facilement, de préciser aux femmes que s'acquitter du devoir conjugal est une obligation sous peine de péché grave. Donc, même si votre époux continue de vous demander le devoir conjugal, et que vous ne pouvez plus avoir d'enfant, tout simplement parce que vous avez passé l'âge de la ménopause, une femme est toujours tenue en conscience devant Dieu d'accepter le dû conjugal. Même si l'abbé, moi j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, ça ne m'intéresse plus du tout, donc on fait chambre à part, mon mari couche dans un lit, moi dans un autre. Madame, vous commettez une faute grave de vous refuser à votre mari. Mais on ne peut plus avoir d'enfant. D'accord, mais le mariage n'a pas simplement comme but d'avoir des enfants, il y a aussi la fin secondaire, à savoir l'amour mutuel entre les deux époux. Ah, monsieur l'abbé, je ne veux rien savoir, moi ça ne m'intéresse plus, je ne suis plus intéressé par ces choses-là, mon mari n'a qu'à pratiquer la chasteté. Attention, madame, vous commettez un péché grave. Et c'est quelque chose de très fréquent. Très fréquent, des époux qui me disent, monsieur l'abbé, j'ai vraiment un problème dans mon ménage, parce que j'ai 55 ans, ma femme a à peu près le même âge, je ne peux plus avoir d'enfant maintenant à cause de son âge. Bon, je ne lui reproche pas, c'est la nature, c'est comme ça, elle ne peut plus avoir d'enfant. Vous savez, moi, je travaille dans un bureau, il y a toutes les secrétaires autour qui sont mal habillées, et j'ai toujours des tentations contre la pureté, et je demande souvent de pouvoir m'approcher physiquement de ma femme, elle ne veut plus rien entendre parler, parce qu'elle prétend qu'après avoir passé 55 ans, elle a fini donc ses devoirs avec ses enfants, elle a éduqué les enfants sont maintenant mariés, ou vont bientôt se marier, donc elle estime qu'elle n'a plus à commettre l'acte conjugal avec moi, qu'elle n'est plus tenue de le faire, puisqu'elle a passé l'âge. Eh bien, c'est un problème énorme. Parce que les femmes n'en portent jamais au confessionnal, pratiquement jamais. Et quand je prêche aux dames, je suis obligé maintenant, quand je prépare les confessions générales, de faire, je fais des remarques publiques pour que les gens le sachent. Attention, madame, même si vous avez passé l'âge d'avoir des enfants, même si la relation physique avec votre mari ne vous intéresse plus, parce que vous éprouvez plus plaisir ou parce que ça ne vous intéresse pas tout simplement, vous avez toujours le devoir, sous peine de péché grave, de rendre du conjugal, parce que sinon, vous serez responsable, peut-être, de certains péchés de votre mari. Peut-être que votre mari commet des péchés graves contre la pureté, peut-être même qu'il vous est infidèle à cause de vous. J'ai connu des cas comme ça. Monsieur était infidèle à son épouse parce que son épouse lui refusait le dû conjugal. Attention, ça n'excuse pas. Hein. Je ne dis pas qu'un époux a le droit d'être infidèle à son épouse parce que son épouse lui refuse le dû conjugal. Hein. Mais l'épouse pêche gravement de se refuser à son mari sans une raison grave proportionnée. C'est évident que si une épouse est très fatiguée un soir, qu'elle dit une fois de temps en temps à son mari, bon, écoute, pas ce soir parce que vraiment je suis fatigué, j'ai une migraine, je suis crevé là, non, pas ce soir. Elle a le droit, mais il faut qu'il y ait une raison. Alors, autre question importante, un article important, celui qui dans les relations conjugales, c'est l'article 6 de la question 49, ne se propose aucun des biens du mariage, mais le seul plaisir commet-il un péché mortel. Ça veut dire, je m'unis à mon épouse, surtout le cas des hommes, je m'unis à mon épouse à cause du plaisir que me donne l'acte conjugal, je ne pense pas directement actuellement à avoir un enfant ou à remplir les obligations, à avoir un enfant par exemple, mais bien sûr, si j'ai un enfant, j'accepte l'enfant, c'est évident. Mais je m'unis à mon épouse simplement pour le plaisir que j'en ai, tout en acceptant les conséquences de l'acte que je fais, il n'y a pas de péché grave. Voilà ce que dit saint Thomas. Prendre la nourriture pour le seul plaisir n'est pas péché mortellement. De même, accomplir l'acte conjugal avec son épouse uniquement pour satisfaire la concupiscence n'est pas péché grave. Hein? Est-ce que c'est un péché d'apprécier un bon repas? Non. Le péché va intervenir si vous mangez de façon déraisonnable. Bon, de la même façon, est-ce que c'est un péché d'apprécier grandement le plaisir qui est joint par la volonté divine à l'acte conjugal avec votre épouse légitime? La raison, la réponse est non, il n'y a aucun péché. Maintenant, il y aura péché si vous refusez la fin première du mariage. Je veux jouir de l'acte conjugal et je prends les moyens pour être absolument certain de ne pas avoir d'enfant, alors que donc je prends des moyens, procédés chimiques par exemple, ou même physiques, pour ne pas avoir d'enfant, alors que je ne suis pas dans une des conditions des trois indications indiquées par le pape Pie XII, et j'utilise des moyens illégitimes, il y a faute, et c'est absolument évident. Alors, rechercher, cependant saint Thomas met quand même une nuance, hein. Rechercher au contraire le plaisir, mais sans enfreindre les lois du mariage, c'est-à-dire ne le chercher avec personne d'autre que son épouse, est seulement péché véniel. Je dirais que s'il y a une raison proportionnée, il n'y a même pas de péché du tout. Alors là, il y a une petite note de saint Thomas qui est très intéressante, un peu directe, mais voilà ce qu'il dit. Un mari cherche dans les relations avec son épouse les plaisirs que l'on trouve dans les relations avec les courtisanes quand il n'attend rien d'autre d'elle que ce qu'on attend d'une courtisane. Je dis souvent au mari, attention, votre épouse, je m'excuse du terme un peu direct, je ne veux pas choquer les gens qui m'écoutent, mais je dis souvent au mari au confessionnal, attention dans certains cas, attention, votre épouse n'est pas votre prostituée privée. Donc vous devez la respecter. Ne faites pas des choses, même que vous auriez le droit de faire, si vous voyez très bien que ça ne plaît pas du tout à votre épouse. Alors saint Thomas explique bien, donc, l'homme qui n'offre pas à Dieu le plaisir dont il jouit présentement ne place pas pour autant sa fin dernière dans le plaisir. Sinon, il le rechercherait indifféremment partout où il pourrait le trouver. Donc, si je m'unis à mon épouse uniquement pour le plaisir en rejetant les fins du mariage, il y a faute grave. Si je m'unis à mon épouse pour le plaisir sans rejeter les fins du mariage, il n'y a pas faute grave. Alors, saint Thomas fait quand même remarquer que un homme qui est devenu tout charnel par ses plaisirs voluptueux s'est rendu inapte aux fonctions spirituelles. Donc, les plaisirs de l'ordre d'ordre sexuel qui est voulu par Dieu entre deux époux qui commettent l'acte conjugal va rendre les fonctions spirituelles inaptes au moment de l'acte. Bon, mais c'est pas un péché encore une fois entre les époux. Mais il est évident que vous pouvez très bien, en tant qu'époux, offrir l'acte conjugal, offrir au bon Dieu comme un acte de vertu. Attention, du moment que vous acceptez la loi du, les lois du mariage. Alors, à partir de question 50, on va parler des empêchements du mariage. Alors, là j'ai passé assez vite parce que c'est d'abord des questions purement canoniques, ce n'est pas le but du cours. Je ne donne pas un cours de droit canonique. En plus de ça, aussi parce que le droit canonique a été modifié par le pape Saint-Pie X. Nous suivons le code de droit canonique de 1917. Donc je rappelle que ce code de droit canonique de 1917 a entièrement été préparé par le pape Saint-Pie X, mais il est mort trop tôt, il est mort en août 1914, et donc il n'a pas eu le temps de publier le code. Il a été publié par son successeur immédiat, le pape Benoît XV, en 1917. Mais c'est le code de Saint-Pie X, c'est pour ça qu'on l'appelle le code de droit canonique de Saint-Pie X, qui est le code canonique de l'Église catholique. Le code de 1983 est le code de droit canonique de l'Église de Vatican II, qui n'est pas l'Église du Christ. Alors, je voudrais vous rappeler rapidement, encore une fois, je vais assez vite parce que c'est une partie du catéchisme là. Donc je vous rappelle les empêchements de mariage. Donc il y a deux sortes d'empêchements. L'empêchement c'est un obstacle, un obex. Il y a les empêchements de mariage qui peuvent être prohibants, donc qui rendent le mariage illicite. Ça veut dire que si on se marie avec un empêchement prohibant sur la conscience, le mariage reste valide. Cependant on pêche, si on le fait volontairement. Et les empêchements d'irrimant. L'empêchement d'irrimant c'est l'empêchement qui rend le mariage invalide. C'est-à-dire que si on se marie avec un empêchement d'irrimant, même de bonne foi, on ne sait pas, le mariage est invalide. C'est pour ça qu'il faut faire une enquête avant le mariage pour vérifier justement l'absence d'empêchement prohibant et d'irrimant et d'obtenir, si c'est nécessaire, les dispenses nécessaires. Certaines dispenses peuvent être données, mais si la dispense n'est pas accordée pour un empêchement d'irrimant, le mariage est invalide. Alors, les empêchements prohibants, donc qui rendent le mariage illicite, mais le mariage reste valide, il y en a trois. Le vœu simple, soit le vœu de virginité, soit le vœu de chasteté parfaite, soit le vœu de ne pas se marier, de rentrer dans l'état religieux. C'est pour ça qu'une des questions qu'on pose dans les préparations au mariage, dans l'enquête matrimoniale, c'est est-ce que vous avez, auparavant, il y a longtemps, quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous avez fait un vœu de virginité, un vœu de chasteté parfaite ? Bon. Un vœu simple est donc un vœu prohibant. Deuxième vœu prohibant, la religion mixte. Bon. C'est-à-dire, quand un catholique se marie, veut se marier avec un non-catholique, avec un baptême valide. Bon, mais hors de l'Église catholique. Par exemple, un catholique qui veut se marier avec une orthodoxe. Bon, le baptême orthodoxe est valide. Mais l'Église orthodoxe est une fausse Église. Même si beaucoup des sacrements de l'Église orthodoxe sont valides, la messe orthodoxe est valide, le sacrement de l'ordre est valide, le sacrement de pénitence est valide, le sacrement d'extrême onction orthodoxe est valide. Il n'y a que les mariages des orthodoxes qui sont invalides puisque l'Église orthodoxe accepte le divorce. Donc ça rend tous les mariages invalides, ça va contre la loi naturelle. Donc un empêchement prohibant de religion mixte, c'est un empêchement qui existe entre une personne catholique qui veut se marier avec une personne qui a un baptême valide mais hors de l'Église catholique. Donc il faut l'Église hors de ça, fait tout pour les empêcher. Dans certains cas, une dispense peut être accordée à condition que la personne qui n'est pas catholique signe un document comme quoi elle ne cherchera jamais à convertir la partie catholique à son église, à sa fausse église, et qu'elle s'engage, cette personne s'engage à ce que tous les enfants à naître soient élevés exclusivement dans l'église catholique avec le baptême catholique. Bon. Troisième empêchement prohibant, la parenté légale. La parenté légale, c'est l'empêchement prohibant qui existe dans un cas d'adoption. Bon, imaginez par exemple que vous ayez un demi-frère ou une personne que vous considérez comme votre sœur. Par exemple, vous avez un monsieur qui a une jeune fille dans la maison, qui considère comme sa sœur. Elle a toujours été dans la maison. Elle a été adoptée par ses parents quand elle était toute petite. Bon, il pourrait pas se dire puisque nous ne sommes, je la considère comme ma sœur, mais elle n'est pas ma sœur puisqu'on n'a pas le même sang, puisqu'elle est adoptée. J'aime cette personne, je voudrais l'épouser. C'est un empêchement prohibant de parenté légale. Donc, dans ce cas-là, l'Église suit la loi civile. La loi civile, en général, interdit ce genre de mariage. C'est le même cas pour l'Église catholique. Cependant, c'est en soi un empêchement prohibant. Ensuite, il y a les empêchements d'irrimant. L'empêchement d'irrimant rend le mariage invalide. Alors, il y en a qui sont... pour lesquels on peut obtenir des dispenses, et d'autres pour lesquels il n'y a jamais de dispense accordée. L'empêchement d'âge, 16 ans pour les hommes, 14 ans pour les femmes. Une personne qui veut se marier, une jeune fille qui veut se marier à 13 ans, ne peut pas les marier, il y a un empêchement d'âge. 15 ans pour un homme, pareil, un jeune homme qui veut se marier à 15 ans, ce serait de la folie. Empêchement d'âge, empêchement d'irrément, le mariage est invalide. Empêchement d'impuissance, donc si l'acte conjugal est impossible, on a ce qu'on appelle un empêchement d'irrément d'impuissance rendant le mariage invalide. La dispense est en général accordée pour les personnes très âgées. Imaginez deux personnes, une personne qui est veuve, 70 ans, qui vient de moi me voir en disant « Voilà, monsieur l'abbé, moi j'ai rencontré une autre veuve, une personne qui a mon âge, 70 ans, ne peut plus avoir d'enfant, évidemment à cause de son âge. Moi-même, je suis plus ou moins impuissant à cause de mon âge, mais j'aime beaucoup cette personne, je ne veux pas être tout seul, elle ne veut pas être toute seule, on a décidé de se marier. » Est-ce qu'on peut obtenir une dispense pour ce cas-là? Strictement parlant, l'Église avant accordé en général la dispense dans ce cas-là, très particulier. Ensuite, empêchement d'irrimant de lien, l'existence d'un mariage valide antérieur. Il n'y a jamais de dispense accordée. Donc si vous avez déjà été marié une première fois, il n'y a pas question de vous marier une deuxième fois. Donc même si vous avez été, après un premier mariage valide, votre épouse ou votre époux est encore de ce monde, vous souhaitez vous remarier, vous avez obtenu de l'Église de Vatican II une annulation de mariage, vous ne pouvez pas vous remarier. Et même si vous avez été remarié, parce que par exemple la fraternité sacerdotale Saint-Pédis s'est cru s'est donné le pouvoir de vous remarier, soi-disant religieusement, vous vivez en concubinage. Donc il faut le savoir. Vous vivez en concubinage, il n'est pas question que vous receviez les sacrements dans ma chapelle dans des conditions comme ça. On est obligé de poser les questions, malheureusement, quand on a des nouveaux fidèles qui débarquent. Et souvent, on est obligé de leur dire, écoutez, je m'excuse, mais est-ce que vous avez déjà été marié auparavant, religieusement? Ah ben oui, on était marié religieusement auparavant, mais vous comprenez, on a obtenu une dispense, on a obtenu une annulation de mariage, et donc on s'est remarié religieusement. Ben, monsieur, le mariage valide, consommé, ratifié entre deux catholiques est indissoluble. Votre première épouse est toujours vivante, oui, monsieur l'abbé, donc vous n'êtes pas marié, vous vivez en concubinage, il n'est pas possible que vous receviez le sacrement chez moi. Vous pourriez éventuellement assister à la messe, mais vous devez vous abstenir de communier, ou si vous souhaitez communier, il faudra d'abord faire une bonne confession et vous séparer. Ou dans certains cas, surtout pour les personnes âgées, vivre comme frère et sœur. Il faut être clair, ferme, le mariage est indissoluble. Cela ne peut pas être changé, encore une fois, le dogme est là. Aucune autorité au ciel ou sur la terre, Dieu lui-même ne peut pas invalider un mariage ratifié, consommé, entre deux catholiques. Donc l'empêchement d'irrément de lien invalide tous les mariages. Et une dispense n'est jamais, jamais donnée. Ensuite, empêchement d'irrément, disparité de culte. C'est le mariage entre un catholique et un païen. Ah, l'Église, horreur de ça, en général n'accorde jamais de dispense. Jamais, en tout cas, pour imaginer un catholique qui va se marier avec un musulman, une personne de religion juive, la dispense n'est jamais accordée. Jamais accordée. Il faut essayer de convertir le païen avant le mariage. Aussi, l'empêchement d'iriment d'ordre sacré. Si vous voulez épouser quelqu'un, qui est une jeune fille qui veut épouser quelqu'un qui est sous-diacre, qui est diacre ou prêtre, est évident que l'empêchement d'ordre sacré rend invalide tout mariage de ce genre. Pareil pour une religieuse, la profession religieuse solennelle, pour un religieux, une religieuse, imaginez une personne qui veut épouser une jeune fille, une jeune femme, et qui a fait profession religieuse, qui a quitté ensuite sa vie religieuse pour une raison X ou Y, et bien la profession religieuse solennelle rend le mariage postérieur invalide. L'empêchement de rapt, l'absence de liberté physique pour donner consentement, une personne qui n'est pas libre, justement, qui n'a pas cette liberté, donc j'en ai parlé tout à l'heure, quelqu'un qui n'est pas libre, de refuser de se marier ou de se marier avec telle personne, il y a un empêchement d'iriment, de rapt. C'est pour cela, je vous l'ai déjà dit, que le prêtre doit voir la personne de façon privée. Dans les préparations au mariage, au moment où on remplit les papiers de mariage, je dois voir la fiancée toute seule pendant, je prends 5-10 minutes, et puis ensuite le fiancé tout seul pendant 5-10 minutes, et je vérifie soigneusement l'empêchement de rapt. D'être sûr que la jeune fille est libre. Et parfois, elle va me dire, monsieur l'abbé, je suis obligé de me marier parce que, vous comprenez, je suis enceinte, mon père m'a menacé de me mettre à la porte si je ne me marie pas. Moi, j'aime pas ce garçon. Je me marie simplement parce que mon père me met à la porte. J'ai pas envie de me marier avec lui. Je le fais contraint et forcé. Dans ce cas-là, je refuse le mariage. Et empêchement directement de rap pour lequel il n'y a jamais de dispense qui est accordée. Alors, d'autres empêchements canoniques d'iriment, l'empêchement de crime, c'est-à-dire si une personne mariée assassine ou fait assassiner son épouse légitime pour pouvoir se marier avec sa maîtresse, eh bien, il y a un empêchement de crime qui rend évidemment le nouveau mariage invalide, un empêchement d'iriment. Donc, faut pas, c'était très important dans certains milieux très pauvres, entre autres au Mexique. Souvent les gens disaient bon ben moi je voudrais me remarier monsieur, c'est pas possible, vous êtes déjà marié, il y a que la mort qui vous sépare, il fallait bien que je précise la mort naturelle, parce que dans certains cas malheureusement les milieux très simples, le milieu du sud de Mexique, j'avais remarqué souvent la personne faisait assassiner par un de ses copains son épouse légitime pour pouvoir se marier, et à ce moment là il y a un empêchement d'iriment de crime, le mariage est infaillible, est impossible, deuxième mariage est impossible. Alors, empêchement d'iriment, d'autres empêchements d'iriment sur lesquels je passe très vite, c'est l'empêchement de consanguinité, d'affinité, d'honnêteté. De consanguinité, c'est l'empêchement pour protéger les enfants à venir, pour empêcher le mariage dans le même sang, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré. Donc je ne rentre pas dans ces détails canoniques, parce que, encore une fois, ce n'est pas le but du cours, je ne vous donne pas un cours de droit canonique. Sachez qu'il y a des enseignements, des empêchements d'iriment de consanguinité. Si vous êtes de la même famille, vous ne pouvez pas vous marier. Même vous marier avec une cousine directe, ben, il faut des dispenses, et actuellement, bon courage pour obtenir une dispense, ce n'est pas vraiment à qui les demander. Pareil pour l'affinité, c'est des empêchements, aussi un empêchement d'iriment qui vient des consanguins du conjoint décédé à tous les degrés en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré. Après, un veuf, par exemple, ne peut pas se marier avec les membres directs de la famille de son épouse décédée. Hein? Donc en ligne directe à tous les degrés, en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré. Hein? Et enfin, un autre empêchement d'iriment, l'honnêteté publique, c'est après les concubinages, avec les consanguins du concubin en ligne directe jusqu'au deuxième degré, il y a une impossibilité de se marier. Enfin, dernier empêchement d'iriment, donc qui rend le mariage invalide, c'est l'empêchement qu'on appelle de parenté spirituelle entre le baptisé et ses parrains, ou les ministres, par exemple. Des paroles, vous baptisez, de vous marier avec votre filleule. Filleule de confirmation, filleule de baptême. Hein? Voilà. Donc, je vais arrêter là. Donc nous avons vu déjà les différents empêchements au mariage, donc c'est la question 50. Combien vient-il d'assigner des empêchements au mariage? Ben oui, donc je viens de vous les donner, je viens de vous donner la liste. La liste que je vous donnais correspond au Code de droit canonique de 1917. Donc les empêchements, dit saint Thomas, qui suppriment une condition essentielle du mariage, on pourrait plus le rendre nul. Hein? Donc l'erreur, la condition, le vœu, la parenté, le crime, la disparité de culte, l'ordre, le lien, l'honnêteté, l'affinité, l'impuissance, sont les obstacles, dit saint Thomas, qui empêchent ces associations conjugales de se créer ou les brisent si elles ont déjà été contactées. Alors il est évident que saint Thomas, c'est pour ça que je vais aller assez vite dans la deuxième partie de ce traité, saint Thomas suit le droit canonique de son époque, qui n'est plus le même aujourd'hui. Il y a des choses qui ont changé en matière de droit canonique, pas en matière de foi. Alors, nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Ange gardien, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.